Tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, l'installation officielle ce matin des membres du Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Cet organe inscrit dans la charte de la transition est composé de 40 personnalités, civiles et militaires, avec seulement 6 femmes. Guy Hervé Kam du mouvement Sens dénonce des mensonges au sommet de l'État au prétexte de l'urgence sécuritaire. Il a appelé hier à un changement de paradigme dans la gouvernance. Au Tchad, la police a mis aux arrêts 84 militants du parti d'opposition Les Transformateurs. Ils ont été interceptés pour troubles à l'ordre public. Et puis, il existe un lien de causalité entre l'insécurité et les actes d'abandon d'enfants à Kaya, où le phénomène est devenu récurrent. C'est ce que nous expliquera notre invité du jour. Il s'agit de Babake Yankoura, le responsable de la brigade des mœurs des mineurs et des stupéfiants de la police de Kaya. Nommés le 25 août dernier, les membres du Conseil de suivi et d'orientation de la transition ont été installés ce matin. Cet organe qui est inscrit dans la charte de la transition est composé de 40 personnalités civiles et militaires avec seulement 6 femmes. Il est présidé par le chef de l'État, Paul-Henri Damiba. Le COSTE, dernier maillon de la transition, a pour mission de veiller sur l'orientation politique de la transition et de soutenir le président de la transition du Burkina Faso dans ses prises de décision. À l'occasion de cette cérémonie d'installation, le chef de l'État a appelé les Burkinabés à une prise de conscience individuelle et collective dans la construction de notre sécurité. Écoutez Paul-Henri Damiba au micro de notre reporter Moumouni Tamboura.
Nous devons chacun, dans notre travail, dans nos cellules familiales, dans nos campagnes et dans nos villes, cultiver les réflexes sécuritaires qui contribue à nous préserver collectivement. Cette prise de conscience individuelle est absolument nécessaire dans la construction de notre sécurité collective. Cette logique est tout aussi valable dans les différents secteurs de développement. Pour accroître notre productivité agricole, pour booster notre industrie ou pour tirer un meilleur profit de nos ressources naturelles, il faudra que cela soit pour chacun d'entre nous un objectif. Le Conseil d'orientation et de suivi de la transition est le dernier maillon de la chaîne que constitue le dispositif chargé de conduire cette transition. Le rôle dévoué à cet organe est particulièrement décisif dans la définition même du cap que nous souhaitons donner à la gouvernance de notre pays. En tant qu'organe chargé de définir les grandes orientations de la politique de l'État en matière de paix, de stabilité et de sécurité nationale, COS est de facto au cœur de notre stratégie dont l'objectif final est de repositionner notre pays sur les rails du progrès.
Cette déclaration du président Paul-Henri Damiba intervient 2 jours avant son discours à la Nation, prévu dimanche prochain, le 1er avril dernier. Il avait donné 5 mois au Burkinabé pour faire le point de la reconquête du territoire national. Justement, sur ce bilan très attendu, Guy Hervé Kam du mouvement Sens estime que le pouvoir du président Paul-Henri Damiba a dévié de sa trajectoire, à savoir l'urgence sécuritaire. Le coordonnateur national du Mouvement Sens faisait hier son propre bilan des 7 mois de la transition. Il dénonce notamment des mensonges au sommet de l'État. Écoutez Guy Hervé Kam au micro de Yaya Djomandé.
Le premier mensonge que nous sommes en train de vivre, c'est que ce régime est venu pour l'urgence sécuritaire. Parce que ce régime, certes, est venu au prétexte de l'urgence sécuritaire. Mais que voyons-nous? C'est que cette question est reléguée au second plan, au profit des questions de réconciliation politique, au profit des questions de nomination partisane et au fond, en fait, au profit d'une course effrénée vers ce que j'appelle la mangeoire. Il y a un deuxième mensonge, c'est la question de la restauration du territoire. Au 24 janvier 2022, il n'y avait pas de chef-lieu de province sous l'emprise des groupes armés. Aujourd'hui, que voyons-nous? Les chefs-lieux de province ne sont pas épargnés. À l'instar de Solenzo, de Nouna, de Djibo, certains autres sont sous blocus. Il s'agit donc des chefs-lieux de province du Sahel.
Face à la vie, face aux millions de nos compatriotes en détresse, ce gouvernement n'a pas craint de doubler son salaire, a dénoncé le coordonnateur national du mouvement Sens qui appelle un changement de paradigme dans la gouvernance. Pour Guy Hervé Cam, le président Paul-Henri Damiba doit reconnaître ses échecs et tenir un langage de vérité au Burkinabé. En attendant, le Burkina a rendu hier un hommage aux victimes du terrorisme à travers une cérémonie au monument des héros à Ouagadougou en présence du chef de l'État. Deuxième du genre au Burkina, cette commémoration nationale de la journée du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme vise à soutenir les victimes survivantes du terrorisme, promouvoir et protéger le plein exercice de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. Occasion pour le représentant des victimes d'appeler à un recadrage de la gestion de l'indemnisation allouée aux soldats tombés sur le champ de bataille, la résolution de la question de la prise en charge des épouses vivant en concubinage et l'application de la loi sur la pupille de la nation. Le reportage est signé Faouzia Zongo et Moumouni Tamboura.
Je voudrais vous demander une minute d'applaudissement en guise de soutien à leur famille et d'encouragement par leur combat.
Les morts sont aussi dans l'arbre qui frémit et sont dans le bois qui gémit, selon Birago Diop. En témoigne la tenue d'une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. La prise en charge des victimes du terrorisme, un droit pour les victimes et un devoir pour les communautés, est le thème de cette édition. Selon le ministre de la Justice, Maître Barthélémy Kéré, le thème est interpellateur.
L'objectif de ce thème, c'est d'interpeller l'ensemble des acteurs sur leur devoir de solidarité envers les victimes du terrorisme comme un levier pour le renforcement de leur force de résilience et le raffermissement de leur fibre patriotique dans la perspective de la consolidation des efforts du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et de renforcement de la cohésion sociale.
Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Cette journée, bien que les objectifs visent à rendre hommage à tous ces braves hommes, civils ou militaires tombés sur le champ de bataille, elle, d'autant plus adressée aux veuves, aux orphelins, les personnes déplacées internes, les parents victimes directes et indirectes qui ne font que croître dans nos communautés, a laissé entendre le représentant des parents des victimes, Pascal Lankwande, pour venir à bout à une assistance de toutes ces personnes victimes de terrorisme. Il interpelle les autorités à trouver des palliatives afin que la situation ne prenne d'autres envergures.
Nous ne sommes pas en mesure de vous dire ce qui se passe car il faut vivre cette situation pour la comprendre. Mais ce que nous savons, c'est que cet aspect mental des victimes risque de créer à long terme un grand problème social, pourrait induire un terrorisme généré par notre manque d'anticipation et d'introspection des maux en germination. Toutes ces victimes de ce nouveau phénomène de notre société souhaitent vivre dignement et non dans l'assistance éternelle.
Cette célébration devrait permettre aux parents et survivants des attaques terroristes à une renaissance des citoyens burkinabés, certes, mais l'aide à ces victimes est une responsabilité qui incombe à l'État. L'acte terroriste rend plus vulnérables les victimes et l'État a le devoir de leur venir en aide, en témoigne ses propos d'une victime des centres du terrorisme.
Après le décès de mon époux, pratiquement, nous les veuves, c'est en fait de belles familles. Il n'y a pas longtemps, toujours rien. Moi, pratiquement, mon mari est décédé, ça fait 3 ans. Depuis, il n'a pas gain de cause.
Le représentant des familles des victimes, Pascal Lankwande, invite à cet effet à un recadrage des indemnités allouées aux soldats tombés sur le champ de bataille. Ils ont souligné par ailleurs le problème de la prise en compte des épouses de victimes vivant en concubinage, dont la plupart est sans emploi. Aussi, il insiste sur la nécessité d'un soutien psychologique et social et la réhabilitation de toutes ces victimes à court, moyen et long terme.
D'aucune indemnité, toutes catégories confondues comme si ces derniers n'étaient pas des Burkinabés.
Afin de soutenir l'État dans les réalisations socio-économiques du pays, la LONABE, l'Loterie nationale burkinabé, va financer la construction d'une escale dédiée aux formalités de police au sein de la base aérienne 511 à Ouagadougou. Cette escale permettra le contrôle des passagers et des colis à destination des zones inaccessibles. La pose de la première pierre a eu lieu hier. Marina Traoré.
Dans exactement 2 mois, sortira de terre une escale à la base aérienne 511 de Ouagadougou. La pose de cette première pierre marque donc le démarrage des travaux. L'initiative est de la LONABE, l'autorité nationale burkinabé. Mariam Yamiogo, représentante du directeur général de la LONABE.
La LONABE contribue à soutenir l'État dans la réalisation socio-économique du Burkina Faso. Ce qui justifie un peu la pose de la première pierre donc, de cette infrastructure.
C'est l'entreprise Cotrap qui est chargée de la réalisation de cet ouvrage. Alfred Diendéré est le chef de chantier.
Le projet concerne la réalisation d'un hangar. Il y a 2 latrines à faire et plus et un conteneur de 40 pieds.
En attendant la réception de l'ouvrage, le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air dit toute sa satisfaction. Lieutenant-colonel Ibrahim Sakira.
Nous sommes fortement sollicités pour le transport de personnel et de matériel vers diverses destinations. Et donc, cette infrastructure permettra d'offrir un cadre adéquat pour ces passagers qui sont en attente pour le départ ou à l'arrivée. Et aussi, ça permettra de faire efficacement le contrôle des passagers.
Le coût global de ce chantier est estimé à environ 50 millions de francs CFA.
Le ministre de la Transition digitale, Aminata Zerbo, et le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Frédéric Ouattara, ont visité hier le chantier de l'interconnexion de l'Université Thomas Sankara sur la RN4. Cette visite entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de raccordement des sites des instituts supérieurs et des recherches. 17 universités et instituts sur 80 bénéficient de ce projet qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'Internet des différentes structures universitaires. Le taux des travaux réalisés est estimé à environ 60%. Selon l'Agence nationale de promotion des TIC, le compte-rendu de Neymata Kabore et Alice Kagoni.
L'installation de la fibre optique dans les universités et instituts publics s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de la qualité de la formation et de la recherche des étudiants. Aminata Zerbo, ministre de la Transition digitale.
Ce fonds a pour objectif de permettre l'inclusion numérique en connectant les zones blanches, les zones pour lesquelles les opérateurs n'ont pas d'obligation en fait d'investir. Mais cette fois-ci, c'est le monde universitaire, les étudiants et également les enseignants. C'est un important projet qui s'inscrit en tout cas dans le cadre des projets structurants du numérique qu'on veut dans tous les secteurs et qui est la concrétisation, on va dire, de l'ambition affichée par nos plus hautes autorités de faire du numérique un véritable instrument pour le développement socio-économique de notre pays.
Le ministre de l'Enseignement est convaincu que ce projet va permettre aux étudiants de mieux apprendre. Professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur.
Tout le monde sait que dans nos universités, il y a une massification d'étudiants. Donc, il est important que l'on leur facilite la tâche. Et dans le cas du LMD, il y a une auto-formation qui doit se faire. Donc, on est convaincu et certain que ça va permettre aux étudiants de mieux apprendre. Et dans le contexte de la sécurisation aussi, notre pays, il est important que le numérique joue un rôle très important. Mais sans ignorer les zones d'accès difficiles, on permet de continuer leurs études. À partir de la connectivité, on va donner l'offre de formation à l'université virtuelle pour les permettre d'aller à l'école dans les mois difficiles.
Malgré la situation sécuritaire du pays et le contexte international relatif à la COVID-19 et la guerre Russie-Ukraine, les deux ministres ont jugé satisfaisant l'avancement des travaux d'installation de la fibre optique. Ces ouvrages devraient être livrés d'ici la rentrée prochaine.
Parlons maintenant d'hygiène avec ce geste de l'entreprise Olympia Oil. La structure, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a fait don au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeudi du matériel de nettoyage qui vient soutenir les actions de salubrité de ce département, à savoir l'opération Manamana. Plus de détails avec Sonia Nikiema et Judith Traoré.
Des poubelles, des râteaux, des pelles et des brouettes. Telle est la composition du matériel de nettoyage remis au ministère en charge de la jeunesse, des sports et des loisirs par l'entreprise Olympia Oil. Ce don, selon Wabou Drabo, ministre en charge de la jeunesse, est un acte citoyen.
Nous sommes très satisfaits ce matin de recevoir une entreprise privée, donc venir vers le ministère pour offrir du matériel dans le cadre de l'opération Manamana, composé de poubelles, de brouettes, de râteaux, de pelles et diverses. Donc, en plus du matériel, ils ont pris l'engagement d'accompagner par leur présence physique donc les prochaines journées de l'opération Manamana. Donc, c'est l'occasion pour nous d'inviter toutes les entreprises privées et publiques également donc, à emboîter les pas. C'est une action citoyenne. Aujourd'hui, on peut dire que Olympia est une entreprise citoyenne.
Pour le représentant de Olympia Oil, Habib Kabouré, cette initiative se justifie doublement. D'une part, l'objectif recherché est de protéger l'environnement, garantir aux populations de vivre dans un cadre sain, toutes choses qui concourent à leur bien-être. D'autre part, il s'agit d'accompagner le ministère dans l'accomplissement de l'opération Manamana.
Le but de la remise du matériel au ministère de la Jeunesse, c'est d'accompagner l'action du gouvernement dans l'amélioration du cadre de vie de tout citoyen burkinabé.
Cette remise de ton a été l'occasion pour le ministre en charge de la jeunesse d'inviter les autres entreprises à se joindre à cette action gouvernementale.
Un mot de l'actualité internationale. Au Tchad, la police a mis aux arrêts 84 militants du parti d'opposition Les Transformateurs. Ils ont été interpellés pour troubles à l'ordre public et attroupement non autorisé par le ministère de la Sécurité publique. Sur sa page Facebook, le parti d'opposition dénonce ces interpellations qu'il juge injustes et exige la libération sans condition de ses militants. Le parti qui boycotte le dialogue national inclusif depuis son ouverture il y a 2 semaines assure qu'il maintient son meeting de samedi prochain comme il le fait depuis 3 semaines.
La revue de presse.
À présent, la revue de presse, bilan 5 mois de Damiba. Le quotidien rappelle que l'heure a sonné. Il tacle aussi ses leaders d'OSC qui affirment que le président Paul-Henri Damiba est un messie. Et il n'est pas le seul. Notre confrère de l'Express du Faso s'insurge contre des leaders d'OSC en martelant la transition n'appartient à personne, même pas au président Damiba. Voyons tout cela en détail avec Asma Odaou.
Dans sa parution du jour, le quotidien rappelle au président de la transition, Paul-Henri Damiba, que l'heure du bilan a sonné et personne ne peut certainement pas donner des réponses objectives en lien avec la réalité du terrain si on est assis à Ouagadougou derrière un clavier ou si on organise des conférences de presse pour marteler que le bilan promis par le président Damiba est positif, donc il est un envoyé de Dieu. Les personnes qui peuvent actuellement donner une appréciation qui tend vers l'objectivité sont celles qui vivent dans certaines localités comme Solenzo, Nouna, Barani et Tueni, dans la boucle du Moun où les populations de toute la région du Sahel, de l'Est, du Centre-Nord et une bonne partie du Nord. Aujourd'hui, au Faso, dans une curiosité, veut bien savoir quel tableau va présenter le colonel Damiba ce dimanche. Pour lui, en attendant, c'est un pays qui demeure à moitié occupé par les forces du mal que l'on doit reconquérir. L'Express du Faso rappelle, même au président Damiba, la transition n'appartient pas. S'indignant entre ces lignes, ceux qui bavardent et s'excitent au hasard autour de la transition doivent, pendant qu'il est encore temps, revenir à la raison et comprendre que la transition n'appartient à personne. N'en parlons pas de petits zélateurs éhontés qui gravitent autour à la recherche de quelques subsides. Soutenir la transition, c'est faire en sorte que l'insécurité soit significativement réduite. Tout le reste, c'est du bavardage qui rattrapera très bientôt son auteur. Sidoya vient demander aux uns et aux autres de cultiver d'abord une paix intérieure avant de parler réconciliation. Son titre est « Se concilier pour se réconcilier ». On va à la réconciliation d'un bon pied. Pourrons-nous faire la paix sans être vraiment en paix avec nous-mêmes ? S'interroge le quotidien d'État qui conclut que la paix est en nous. Malheureusement, nous ne l'ignorons pas, nous calculons. Et puis, retour sur la polémique autour du séjour de Blaise Compaoré au Bercail avec le pays qui trouve que c'est le comble du ridicule. Dans son développement, se lit « Ce n'est pas bon pour les autorités de la transition dont les propos sont presque chaque fois démentis. Ont-elles oublié que les temps ont changé ? Ce n'est pas comme avant où les gens avaient peur de contester l'autorité. » Quant au CSM, je lui tire mon chapeau car par cette sortie, il donne encore la preuve qu'il n'est pas une institution aux ordres. Et allons maintenant hors de nos frontières avec l'observateur Palga qui titre « Conférence des ambassadeurs français, Jupiter organise la cyber-riposte. Et plus loin, il écrit « Je veux qu'on sape les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient expliquer aux Africains que la France est un pays qui fait de la néocolonisation. » Des propos du président Emmanuel Macron rapportés par l'Obs qui précise « Les diplomates français sont donc invités à être réactifs et agressifs dans les médias et sur les réseaux sociaux. » Et le doyen des quotidiens souhaite bonne chance donc à nos ancêtres gaulois.
L'invité de la rédaction.
Nous parlons aujourd'hui du phénomène d'abandon d'enfants à Kaya avec Babake Yankoura, le chef de la brigade des mœurs des mineurs et des stupéfiants de la police de Kaya. Il indique qu'il existe un lien de causalité entre l'insécurité et les actes d'abandon d'enfants dans la ville. Babake Yankoura, bonjour.
Oui, bonjour Madame Yoda.
La police de Kaya a alerté l'opinion publique à travers une conférence de presse la semaine dernière sur le phénomène d'abandon d'enfants. Comment ce dit phénomène se manifeste-t-il dans la ville?
Effectivement, comme vous l'avez souligné, il n'y a qu'une semaine de cela, nous avons constaté successivement dans la même semaine 3 cas d'abandon d'enfants. Les deux derniers cas qui ont été sauvés, sinon le premier cas a été trouvé mort parce que l'enfant a été abandonné dans des eaux de pluie. Il faut dire que les abandons, en tout cas, se constatent de manière récurrente. Et les mamans, soit c'est un enfant né, abandonné, soit c'est dès les dernières semaines de la grossesse qu'elles font un avortement, c'est-à-dire qu'un accouchement prématuré sans assistance. Et c'est dans les, généralement, soit c'est dans l'eau, et là c'est irrécupérable. D'autres, souvent, c'est dans les écoles. Par exemple, le dernier cas, c'est dans une école que l'enfant a été abandonné. Et là, souvent, on arrive à récupérer. Mais celles qui jettent les enfants dans l'eau, c'est des cas irrécupérables.
Des situations vraiment dramatiques. Est-ce un phénomène nouveau? Serait-il lié à la situation sécuritaire, donc au PDI? Car la ville de Kaya, il faut le noter, accueille plusieurs déplacés internes.
Oui, il faut dire que le phénomène est un peu nouveau. Parce que c'est depuis, disons 2019, que après la situation sécuritaire que nous avons commencé à constater ces faits-là. Parce que c'est avec le déplacement massif des populations, voilà, donc avec leur arrivée à Kaya, dans la ville de Kaya, donc que nous avons commencé à constater les abandons d'enfants. Donc on peut faire un lien de causalité avec, en tout cas, la situation sécuritaire. C'est vrai qu'il y a des populations autochtones qui sont souvent comme auteurs de ces faits, mais il y a aussi les déplacés internes qui sont souvent interpellés par rapport à ça. Donc, il y a un lien de causalité avec la situation sécuritaire.
Sachant que c'est une infraction punie par la loi, lors de vos investigations, est-ce que vous avez déjà réussi à appréhender et ou condamner les coupables ou responsables de ces actes délictueux?
Nos investigations nous permettent d'interpeller les auteurs de ces faits. Et en exemple concret, le dernier cas, l'auteur des faits, qui est juste âgé même de 19 ans, voilà, il a été jugé et condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois ferme et 12 mois avec sursis. Et donc 24 mois d'emprisonnement, donc 12 fermes, avec une amende de 500 000 francs. En tout cas, voilà un exemple parfait du dernier.
À l'instant, notre invité Babake Yankoura, le chef de la brigade des mœurs des mineurs et des stupéfiants de la police de Kaya, qui nous parlait des actes d'abandon d'enfants. Voilà qui met fin à ce journal réalisé par Fidel Compaoré, à la retransmission Facebook Yaya Diomandé. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.